Vous écoutez le studio Kalangou, il est 17h. Dans un instant, le journal en français. Je suis Rafika Taher à la présentation. À la une dans ce journal, un incendie dans un centre de formation technique de Zender fait 3 morts et 8 blessés ce matin. Les explications sont à suivre dans ce journal avec le directeur régional des enseignements professionnels et techniques. Ce 6 février est célébré de par le monde la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Au Niger, le taux de la pratique est en baisse selon les dernières études de 2021. L'insécurité de la région de Tillabéri pousse les populations au déplacement. Pour combattre cette insécurité, un ancien député de la région estime que la bonne gouvernance est une alternative. Il est à suivre dans la partie magazine de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. 3 morts calcinés, 8 blessés, dont 2 graves admis aux urgences de l'hôpital national de Zender. C'est le bilan d'un incendie d'origine criminelle qui s'est déclaré ce matin aux environs de 10h au centre d'enseignement technique. Mamadou Tchouloum, directeur régional des enseignements professionnels et techniques, explique au micro de Ali Keïta.
Nous déplorons la perte de 3 de nos élèves, 2 filles et un garçon brûlé, calciné. Nous avons 5 classes payotes brûlées, il y a 8 blessés, dont 2 graves. Vous savez, les autorités au plus haut niveau sont en train d'œuvrer pour que ces classes-là finissent dans nos centres. Actuellement, ce centre dont je suis en train de vous parler, ils sont dans un site ou bien sur un site d'emprunt. Leur site est en train d'être construit, mais malheureusement, la construction avec la procédure administrative a commencé un peu tard et que le pire aujourd'hui est arrivé, donc on ne peut pas éviter ce que Dieu a déjà prédit.
Un autre incendie a frappé le CG5 de Zender toujours ce matin. Pour le moment, on ne dispose pas de bilan sinistre. Le 6 février est la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 120 et 140 millions de femmes ont été victimes de cette pratique nuisible et dangereuse et 3 millions de filles continuent à y être exposées chaque année. Au Niger, le taux actuel des mutilations est de 0,7%, ce qui représente une avancée majeure dans cette lutte, estime Nouaba Kondjoa, membre du comité nigérien contre les pratiques néfastes connues. Il est au micro de Zainab Abdou.
Au Niger, il y a des avancées dans le cadre de cette lutte. Depuis 2012, de 5%, aujourd'hui, en 2021, nous sommes à 0,7%. Ce n'est pas de façon contraignante qu'on demande à cette population d'abandonner, mais plutôt à travers des projets qu'on met en œuvre à l'endroit de cette population qui comprennent effectivement qu'il y a un danger de mutiler les jeunes filles. Il y a la reconversion des exciseuses, il y a le dialogue communautaire et il y a les approches communautaires. Toutes ces approches ont pour but d'amener la population à une tolérance zéro d'ici 2030.
Les populations de Tegueï, de la commune du Gorwal, ont été forcées de quitter leur village sous la menace des groupes armés pour se réfugier à Bankilari. 2 associations des jeunes de Bankilari, Zegrazé et ASTB, ont œuvré ensemble pour mettre à la disposition des déplacés 4 puits. Haruna Zakari, représentant du maire de Gorwal, au micro de Youssouf Ilewat.
Que Dieu leur rende cet acte au sensible. C'est vrai, quiconque creuse un puits, même en dehors de telles situations, uniquement pour le mettre à la disposition des fidèles, Dieu seul sait de quoi il sera récompensé. Qu'il soit donc récompensé pour ce bienfait. Nous leur sommes vraiment reconnaissants, car c'est un plus pour nous. C'est pourquoi nous louons cette initiative salutaire de nous faire ce puits qui va nous permettre d'avoir assez d'eau pour nos populations, mais aussi les déplacer. Nous les remercions sincèrement.
En bref, le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et centrale a alloué au Niger une enveloppe de 9 millions de dollars. L'annonce a été faite dans un communiqué de presse rendu public par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Tchad le 2 février. Cette allocation permettra d'une part à apporter une réponse humanitaire d'urgence aux besoins les plus critiques des populations déplacées, retournées et communautés hôtes dans les régions de Tillabéri, Tawa et Maradi, et d'autre part pour répondre aux besoins des populations impactées par les inondations récentes dans les régions de Tillabéri, Maradi et Zender. plus de 212 migrants nigériens, parmi eux 141 enfants, 50 femmes qui m'ont dit dans les rues d'Abidjan en Côte d'Ivoire ont été rapatriés ce week-end à Dosso. Ils seront ensuite conduits dans les prochains jours dans leurs localités respectives, a indiqué une source administrative de Dosso. Nana Hadiza Hassan a recueilli les avis de ces mendiants, on les écoute.
La raison pour laquelle je suis allée à Abidjan pour mendier, c'est à cause du décès de mon époux qui a laissé à ma charge 9 enfants, dont 3 filles qui sont déjà mariées, 3 à l'école. Et je suis allée avec les 3 dans cette aventure. Depuis mon arrivée là-bas, je pleure matin et soir. La mendicité pour moi, c'est fini.
C'est juste le destin qui m'a amenée à Abidjan. Ce n'est pas la recherche de la subsistance ou quoi que ce soit. Cela fait 5 mois et même dans mes pires cauchemars, je ne souhaite retourner à Abidjan. Nous sommes juste 60. Il n'y a aucune jeune fille venue de Magaria pour mendier.
C'est les difficultés de la vie qui nous ont poussé à aller en Côte d'Ivoire. Je suis partie avec mes 3 enfants et j'ai fait 8 mois là-bas. On a vraiment besoin d'aide.
J'ai mis en gage mon champ pour me rendre à Abidjan. Nous étions là-bas quand on est venu nous dire que le président de la République a dit de nous rapatrier au Bercail en raison de cette mendicité que nous faisons à l'étranger. Il y a beaucoup de concitoyens là-bas et ils sont en voie d'être rapatriés. Il reste encore d'autres là-bas.
Le cadre de concertation et d'action citoyenne, un regroupement d'organisations de la société civile, s'est penché sur la situation sociopolitique et économique du Niger dans une déclaration hier. Le CCCA a profité de l'occasion pour demander la libération du coordinateur du M62, Abdoulaye Seydou, incarcéré à la prison de Kolo. Nouhou Mohamed Arzika du MPCR est au micro de Maman Ada.
Sur la foi des témoignages recueillis auprès du camarade Abdoulaye Seydou et de ses avocats, nous savons que son arrestation et son incarcération procèdent d'une volonté claire de faire taire un acteur de la société civile dont les prises de position gênent. Et c'est convaincu de cela que les organisations de la société civile nigérienne, regroupées au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, lui apportent leur soutien et demandent l'abandon des charges retenues contre lui et sa libération immédiate et sans condition.
Ce week-end, deux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont soutenu leur thèse de doctorat portant sur l'étude des eaux souterraines dans la zone de Goulbi Maradi et le plateau Maori dans la bande de Gaya. Une étude qui a apporté beaucoup de nouvelles données sur la nature et les perspectives d'exploitation de ces eaux selon leur encadreur. Professeur Yahaya Nazoumou, ingénieur en ressources en eau et changement climatique, au micro de Tajisir Ali Ahmed.
Pour gérer les ressources en eau, particulièrement les ressources en eau souterraine, il faut les connaître. Les ressources en eau souterraine sont invisibles. Il faut donc les rendre visibles pour mieux les connaître. Et c'était ça le premier objectif donc, de cette thèse. Et ensuite, analyser toutes les données qui sont disponibles pour savoir quelles sont les tendances en termes donc, d'évolution des ressources. Grosso modo, ce que cette thèse dit, c'est qu'elle apporte des éléments supplémentaires par rapport à la connaissance du souterrain qu'on avait encore de manière partielle sur la partie concernée. Et donc, l'étudiant a trouvé des très bons résultats, notamment la continuité dans l'ensemble donc du système aquifère latéralement, c'est-à-dire d'un point A vers B, de Ignaloa jusqu'à Sululu, mais également de manière verticale, c'est-à-dire de la surface jusqu'à une certaine profondeur pouvant dépasser la centaine de mètres. Ce qu'on a trouvé déjà, c'est que dans la vallée, l'ensemble donc de l'aquifère est en interconnexion. La partie superficielle, elle est en connexion avec la partie qui est en dessous. C'est-à-dire que c'est un même système aquifère dans la vallée. Quand on pompe au-dessus, eh bien on pompe encore en dessous.
Le comité d'organisation de Tarmamou, un événement de remise de trophées aux acteurs socio-économiques et culturels ayant marqué l'année 2022, a animé une conférence de presse ce week-end à Niamey sur les préparatifs de la deuxième édition. Pour cette deuxième édition qui aura lieu en mai prochain, plusieurs innovations ont été apportées selon Abdelrachid Amadou Sandamaïga, promoteur de Tarmamou. Il est au micro de Farid Bourema.
L'année passée, nous avions 10 catégories. Donc cette année, nous avons déjà 16 catégories. Nous avons augmenté 6 catégories. Et la particularité, c'est aussi les Tarmamou d'honneur. Parce que il y a des personnes qui ont travaillé dans les années antérieures. Des personnes qui sont décédées, qui méritent vraiment d'être reconnues par les Nigériens, qui méritent avoir cette reconnaissance-là. Donc ces personnes-là aussi, nous les célébrons. Nous avons créé des Tarmamou d'honneur pour sélectionner des personnes qui chaque année, ils auront des thermomètres d'honneur au fil de l'année. Une des particularités aussi de cette année, c'est que nous avons un thermomètre d'or. C'est le trophée des thermomètres. Et pour ce trophée-là, tous les nominés peuvent concourir à ce trophée-là. Donc, c'est la personne qui aura le plus de votes du public qui pourra gagner ce trophée-là. Ça, c'est le thermomètre d'or.
L'équipe nationale du Niger, le MENA, a prime à regagner Niamey samedi 4 février après avoir participé au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, en Algérie. Au terme de la compétition, le Niger occupe la 4e place derrière Madagascar 3e, l'Algérie 2e et la 1ère place revient au Sénégal. Amadou Hadari, vice-président de la FENIFOOT, se dit satisfait du parcours des joueurs en les recevant au centre technique. Il est au micro de Karim Hassoumigrouza.
Pour vous dire que le pays est fier de vous. Hier encore, j'étais avec le président de la République. Il est très, très fier de vous. Comme vous le savez, c'est le premier capitaine des équipes nationales. Il a suivi les matchs. Pour les gens qui pensent que vous n'avez rien fait, moi, je pense qu'il faut faire attention. D'abord, nous sommes parmi les 4 meilleures nations africaines de football au niveau du CHAN. C'est pas rien. Ensuite, regardons notre parcours. Parmi les 54 pays africains, nous sommes parmi les 18 à aller en Algérie. Et comment nous travaillons ici? Pour nous être d'abord qualifiés et pour être sortis des phases de groupe. Les gens oublient que vous avez livré pratiquement, en tenant compte des matchs de retard que vous avez joué dans le championnat, depuis pratiquement 2 mois, vous avez joué tous les 3 jours. Mais c'est énorme. Et avec la pression que vous aviez là-bas pour la compétition, mais vous avez été de super hommes. C'est un travail herculéen que vous avez fait. Donc la condition physique, c'est elle qui a joué en fait. Mais tout le monde a reconnu la qualité de votre jeu. Et surtout hier encore, vous avez fait le jeu qu'on vous a connu, qui vous a amené là-bas et que vous avez développé contre le Ghana qui nous a permis de nous qualifier.
Bienvenue dans la partie magazine de cette édition. Avec la détérioration de la situation sécuritaire de la région de Tillabéri, les populations de certaines localités sont sous des menaces constantes des groupes armés qui se traduisent par des tueries et assassinats ciblés. Selon Mohamed Mustapha, ancien cadre de commandement ressortissant de la commune de Bankilaré, la bonne gouvernance est une solution pour la résilience, voire la lutte contre l'insécurité. Mohamed Mustapha, ancien député, explique au micro de Moussa Hassan.
Qu'appelle-t-on gouvernance d'une entité?
On parle de la gouvernance en tant qu'exercice du pouvoir par l'autorité investie à l'endroit de ses administrés, encadrée par un certain nombre de mesures et de textes juridiques ou un code, qu'il soit moral ou écrit. Donc on peut observer au niveau local la gouvernance coutumière exercée par le chef coutumier. La gouvernance administrative, où c'est le représentant de l'État, c'est le préfet, et tous les services techniques à travers leur chef, qui sont les collaborateurs directs du préfet. Et la gouvernance, cette fois-ci vraiment locale, dont l'autorité est élue, investie par la confiance de ses concitoyens pour diriger les affaires de la commune. Le conseil municipal, le maire à sa tête.
Quelles sont les bases d'une bonne gouvernance?
L'un dans l'autre. Cette gouvernance-là, elle est encadrée. Dans les cadres coutumiers que nous avons connus et à travers les âges, elle a toujours été encadrée par un code moral qui lie tout le monde et qui fait de la place à tout le monde. Le chef étant l'autorité suprême. Les concitoyens, ils savent qui est le chef et ce qu'ils doivent à l'égard du chef. Et le chef, il sait tous les droits de ses administrés qu'il doit préserver.
La bonne gouvernance est-elle gage de cohésion?
Si la gouvernance locale, coutumière surtout, est bonne, ça constitue un bon tapis pour toutes les autres gouvernances. C'est-à-dire du préfet en tant que représentant de l'État ou que ce soit du maire. Parce qu'ils sont obligés de tenir compte d'un certain nombre de pratiques qui sont là, que les populations ont adoptées d'elles-mêmes à travers leur chef. Le chef est un rempart donc contre tout abus de ces deux autorités que je viens de citer tantôt. On a une société bien harmonisée où c'est la paix qui règne. Et quand il y a la paix, il y a la cohésion sociale. Déjà, on aurait jeté les bases d'un bon développement. Mais la gouvernance, c'est une médaille à double revers. Si, par malheur, la gouvernance est mauvaise, surtout au niveau coutumier, les administrés tournent le dos au chef. Et au sein de la société, il n'y a plus cette harmonie. On assiste le plus souvent à une petite minorité qui s'accapare du chef et qui l'induit souvent en erreur par rapport à la grande majorité frustrée. Ils vont essayer de s'auto-administrer. On va assister à des petits lobbies qui vont d'abord désavouer carrément leur chef. L'autorité administrative qui va venir va constater ça et elle serait peut-être amené à se ranger du côté des chefs. Donc, dans cette gestion administrative aussi, la grande majorité est écartée. Et aussi du niveau du maire.
Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivie.